Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Un santito de la house.
Radio Rosanati Paris.
Lo que se reproduce que esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir vous emmène ici.
Maintenant, avec le changement climatique, il n'y a plus de poissons.
À Saint-Louis du Sénégal, où la mer gagne du terrain, la pêche en est bouleversée. Les départs des familles en réfugiés climatiques, c'est peut-être l'avenir de cette région. Sous les radars, Florence Paracolos en Belgique, escale aussi aux États-Unis, en Algérie. 18h50, 110 dauphins se demandent ce qui a bien pu passer dans la tête d'Elon Musk pour qu'il ait envie d'envoyer une voiture dans l'espace. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Quel est ce monde où la bourse flanche quand l'économie va mieux? Ça s'appelle les États-Unis. Et attention, c'est contagieux. Mais avant, quand la très jeune Afrique pousse et fait route vers le vieux continent, le nôtre, la ruée vers l'Europe est inéluctable. C'est ce que nous dit Stephen Smith, qui est avec nous. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Cela m'amène à un cinquième défi que nous ne pouvons pas éluder. C'est celui de la démographie. Ne pas en parler, c'est irresponsable. Dire... Tout va bien, Madame la Marquise, et on va s'apercevoir qu'il y a une démographie extraordinairement dynamique, mais dans nombre de pays qui déjà n'ont pas la croissance pour faire vivre une génération, une démographie qui fait basculer encore de l'autre côté. C'est ne pas partager une préoccupation que nous devons avoir en commun. 70% de jeunes, c'est ça l'Afrique. Alors oui, c'est une chance. Je vous l'ai dit, j'y crois. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. Mais c'est surtout une immense responsabilité.
Voilà, je vais vous expliquer, vous allez comprendre très vite pourquoi j'ai choisi de vous faire entendre en introduction cet extrait du discours d'Emmanuel Macron. C'était il n'y a pas si longtemps à Ouagadougou, au mois de novembre. Une démocratie sans croissance fait basculer de l'autre côté. Bonjour Stephen Smith. Bonsoir, pardon d'ailleurs,
bonsoir.
Au lieu de bonjour. En même temps, quand vous habitez les États-Unis, je vous mets un petit peu dans votre petit décalage à vous. Vous allez faire quelques vagues avec ce livre que je tiens en main qui s'appelle « La ruée vers l'Europe » et qui nous explique qu'inéluctablement l'Afrique, la très jeune Afrique, est en route vers le continent qu'est le nôtre, c'est la loi des grands nombres, c'est comme vous le dites. Et c'est tout simplement la démographie qui parle, une explosion démographique. D'abord en chiffres pour expliquer aux gens qui nous écoutent, ça veut dire quoi cette population subsaharienne qui bondit ces 50 dernières années, entre les années 60 et maintenant, ça représente quoi exactement?
Vous savez, au moment des indépendances, donc 1960, l'Afrique comptait 600 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle compte 1,3 milliard, donc elle a doublé. Et dans les 30 années à venir, ce qui fait deux petites générations africaines, parce que la population africaine se renouvelle tous les 5-15 ans. Et donc, il y aura 2 milliards et demi d'Africains en 2050. À ce moment-là, en Europe, il y aura 450 millions d'habitants. Donc, vous avez cette démographie. Mais c'est pas tellement par le grand nombre que l'aborde, parce que souvent ça a été des craintes un peu malthusiennes. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est l'Afrique est comme toutes les autres parties du monde. L'Europe, par exemple, a également fait cette transition démographique. On est passé des grandes familles avec des vies courtes vers des petites familles avec des vies plus longues, transition démographique. Et à ce moment-là, entre le milieu du 19e siècle et la Première Guerre mondiale, 60 millions d'Européens sont partis, 45 millions aux États-Unis. Donc, et à l'époque, c'était 300 millions d'Européens.
Chacun
donc,
son tour et chacun sa migration,
chacun
vous voulez dire.
Chacun son tour, l'Asie, l'Amérique latine, et aujourd'hui, c'est l'Afrique, et pas aujourd'hui, c'est pour tout de suite, bientôt, au moment du décollage. L'Afrique émerge déjà, mais n'est pas encore au point où, massivement pour l'instant, il y a 200 000 Africains qui viennent par an, mais ça va s'intensifier très, très spectaculairement.
Et alors, on va y venir petit à petit, je voudrais revenir un peu à ce que disait à l'instant Emmanuel Macron, parce que, et c'est aussi ce que vous dites dans votre livre, d'ailleurs, vous parlez un peu de déni de part et d'autre, notre déni européen de ne pas nous voir vieillir, et notre déni à vous, à nous, on a mis un temps considérable aussi à dire à l'Afrique avec des mots clairs que développement et natalité étaient un alliage, on va dire, compliqué.
Oui, et pourtant, c'est la recette la plus simple pour augmenter la richesse par tête d'habitant, c'est un calcul. Mais on a eu des réticences, pensez à l'Afrique du Sud, quel blanc allait dire à la population noire qu'il fallait avoir moins d'enfants. Historiquement, on peut aussi dire que l'Afrique est sous-peuplée, c'est vraiment la vérité. Et donc, la richesse de l'Afrique n'a jamais été le sol, puisqu'il était abondant, le territoire, c'était toujours les gens, d'où les lignages, les paternités, les lignages qui comptaient beaucoup, parce que c'est la richesse en gens qui compte. Maintenant, on va leur dire, au moment des indépendances, qu'il faudra peut-être brider cette richesse, c'était difficile.
Encore moins, peut-être, au moment des indépendances, en fait. Au moment où on prend son envol, c'est pas le moment de dire, ah bah écoutez, maintenant, il faut plus faire d'enfants.
Et de quoi je me mêle, en quelque sorte, après le colonialisme. Donc, c'était très difficile, et je pense pas que ça ait changé quelque chose. La transition démographique est vraiment un schéma universel, ça s'est passé partout. On aurait pu améliorer. Toujours est-il que les investissements démographiques, comme disait Alfred Sauvy, n'ont pas pu être faits. On ne pouvait pas construire autant de routes, d'hôpitaux et d'écoles qu'il aurait fallu. Même s'il n'y avait pas eu de corruption et de gabegie, ça n'aurait pas été possible. Donc l'Afrique se trouve aujourd'hui noyée, ses progrès sont noyés dans la masse, c'est la loi des grands nombres. Mmh. Et bien sûr, aujourd'hui, il faudra peut-être se poser la question, mais ça prendra beaucoup de temps puisque les générations se succèdent, c'est un paquebot qui tourne lentement.
Mais alors pourquoi quand même, ceci dit, pourquoi cette question, celle du planning familial, celle d'une politique nataliste, n'a pas du tout été évoquée en Afrique si elle a été évoquée ailleurs, y compris en Asie, y compris dans des pays qui eux aussi avaient été colonisés, alors peut-être pas de la même manière, mais pourquoi il y a une partie du monde qui peut en parler, l'autre partie qui ne peut pas en parler?
Je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est politiquement difficile pour les pères de l'indépendance de tenir ce discours dans l'euphorie. Et deuxièmement, cette longue durée d'un continent qui était toujours pauvre en gens. Et si vous voulez, la politique de la terre brûlée en Afrique subsaharienne, c'était la traite négrière. Mmh. Et donc, tenir un discours pour dire il faut avoir moins alors qu'il n'y a pas de sécurité sociale, ça paraît difficile. Je ne veux pas nier la part d'irresponsabilité. Mmh. Mais de toute façon, ce train-là, il est parti. On aura, puisque c'est dans 30 ans, on aura 2,5 milliards d'Africains et certains voudront partir. Et on a un peu tort, je pense par compassion, de dépeindre toujours, de décrire le migrant comme cet être qui fuit l'enfer. En même temps qu'on parle des progrès de l'Afrique. La réalité, c'est que c'est plutôt les gens qui émergent qui partent parce qu'ils ont un minimum de pactole. Ils ont aussi une vue du monde qui leur permet de partir. On ne part pas du village comme ça pour aller à Paris ou New York. Et donc, ce sont les meilleurs qui partent. C'est un problème pour l'Afrique et c'est aussi un problème pour nous qui avons un peu l'habitude de dire il faut sauver ceux qui s'échappent à l'arbitraire, la dictature et l'enfer, ce qui n'est pas tout à fait exact.
Et c'est vrai que ça fait partie des idées reçues auxquelles vous tordez le cou dans votre livre sur ce que vous dites à l'instant. Les pays riches, dites-vous, se tirent une balle dans le pied finalement en aidant les pays pauvres à atteindre un seuil de prospérité à partir duquel leurs habitants disposent des moyens pour partir et s'installer ailleurs. Donc quand on commence à avoir une petite prospérité, bah bien sûr, on a les moyens maintenant de traverser, d'essayer autre chose en fait.
En même temps, ce n'est pas une plaidoirie pour arrêter l'aide au développement,
puisqu'il faut passer par là. Évidemment, ma question suivante.
Non, c'est une étape, il faut passer par là. Vous prenez le Mexique, qui est donc le voisin des États-Unis. En 75, 60 millions de Mexicains, ils veulent partir parce qu'ils sont pauvres, mais juste au seuil de la prospérité. Et donc, les plus dynamiques partent. Aujourd'hui, ça s'est inversé, puisque le Mexique s'est développé, il a doublé sa population, et il ne risque pas, contrairement à ce que dit Trump, il ne risque pas d'envahir les États-Unis. Je pense que l'Afrique doit passer par là, donc il faut aussi les aider à se développer, mais on ne peut pas, comme les Européens, les Asiatiques, tout le monde a migré, les Africains voudront migrer, mais ils migrent dans un monde qui a changé. Et dans quelle mesure peut-on migrer comme les Européens ont migré au début du XXe siècle? Ça, c'est la grande question.
Alors, et on le verra dans un instant, parce que vous avez quelques scénarios, et surtout qui s'inspirent de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, voir jusqu'à quel point nous on se trompe complètement dans notre réponse, y compris à leur arrivée quand même. Vous dites que ce ne sont pas les plus pauvres qui partent, et effectivement, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter les politiques de développement, mais est-ce qu'on se trompe dans nos politiques de développement? Est-ce qu'on développe pas là où il faut? Est-ce qu'on donne pas les crédits là où il faut? Est-ce qu'on ne regarde pas l'Afrique telle qu'on devrait la regarder pour l'aider réellement ou pas?
Je pense que si on veut avoir un propos radical qui, de toute façon, porte une part de généralisation, parmi les centaines de millions de personnes qui ont été sorties du sous-développement, très peu ont été aidées par l'aide publique au développement. L'Afrique est par tête d'habitant la région la plus aidée et la moins développée. C'est pas la Chine qui a eu ses succès grâce à l'aide au développement. Donc je suis assez critique. Je dis bien l'aide au développement, je ne dis pas l'aide humanitaire en cas de catastrophe. Donc je ne crois pas à l'aide au développement. Et je ne pense pas qu'elle va développer à la place des Africains.
Mais là, par exemple, Emmanuel Macron rentre d'Afrique. Il rentre en disant qu'il entend développer les secteurs tertiaires, développer les écoles, encore une fois, parce que c'est un peu ce qu'on développe le plus, nous, de notre côté, vers l'Afrique, ce qui parfois, d'ailleurs, leur fait peut-être un peu hausser les épaules, parce que des écoles, c'est bien, il faut des professeurs aussi à l'intérieur, et il faut tout ça. Anticiper, il dit anticiper sur une évolution économique. Là-dessus, est-ce qu'il se trompe, Emmanuel Macron? Est-ce que le regard n'est pas le bon?
Non, je pense qu'il faut anticiper, ça veut aussi dire appeler de ses voeux. Je pense qu'il faut suivre de très près. On peut très bien insister sur les progrès qui sont réels. Je vous donne un exemple. On a divisé par deux la mortalité infantile. Mais en même temps, aujourd'hui, contrairement en 90, il y avait un enfant sur trois dans le monde qui mourait avant 5 ans et qui était un enfant africain. Aujourd'hui, c'est 1 sur 2. Parce que du fait de l'accroissement, donc du fait des nombres, même quand on fait des progrès, on recule d'une certaine façon. Donc, il faut maîtriser cette démographie. Et j'ai vu que le président s'est attiré les foudres pour ce qu'il a dit sur la démographie, parce que ça reste un sujet très, très controversé. Mais je pense qu'il faut en parler franchement. La responsabilité est avec les Africains et leur gouvernement, mais ça n'empêche pas le reste du monde d'en parler, puisque c'est l'évidence même.
À partir de quel niveau de développement, je ne sais pas si c'est calculable comme ça, à partir de quel niveau de développement une population se dit je reste, je ne profite pas de ce développement pour essayer d'aller voir ailleurs ce qui se passe.
C'est un équilibre très, très délicat, parce qu'il y a à la fois ce que vous pouvez gagner, donc le niveau de vie, mais c'est aussi un côté affectif. Si vous trouvez un équilibre, il y a de l'espoir dans votre société, vous acceptez peut-être des revenus moindres. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'émigrés, de migrants africains. Ils disent, je gagne bien ma vie ici chez vous, mais je ne vis pas. Mmh. Parce que par rapport à leur sociabilité, le coût est très, très fort. Ils espèrent souvent que ce ne soit pas les enfants qui s'en sortent mieux. Donc, ils se sacrifient d'une certaine façon. On a tort de penser que la migration s'arrête au moment où vous arrivez. L'Europe est le paradis, je touche terre et parce que j'ai mes pieds en France, je vais être riche et heureux. C'est faux. La migration, c'est tout un ensemble. C'est un départ de vos parents, un départ souvent déchirant, aussi un tout petit peu lâche parce que vous abandonnez. Ensuite, il y a la phase héroïque, vous vous battez en route et ensuite, il faut intégrer. Et ce n'est pas facile parce que celui qui vous accueille est un migrant aussi, son environnement change.
Mais il y a la phase aussi où ce sont vos aînés qui vous envoient aussi en vous disant, vas-y, toi qui es jeune, et comme ça, tu pourras aussi ramener de l'argent. Et c'est important aussi pour l'économie de la famille et donc du pays.
Oui, et là, il faut aussi être un peu plus lucide. Il faut voir ces solidarités aussi pour ce qu'elles sont parfois, c'est-à-dire tout à fait parasitaires. Il y a des villages entiers qui vivent sur le dos de leurs émigrés. Et l'argent manque aux émigrés pour s'intégrer chez nous, puisque ce que vous renvoyez dans votre pays, vous ne l'avez pas pour faire un sport, pour vous cultiver, pour permettre à vos enfants d'intégrer la classe d'âge qui est la leur. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on voit sans dénigrer, sans s'exciter. Je dis ça parce que quand vous pensez Londres aujourd'hui, c'est la même population que dans les années 50, mais plus de la moitié des gens sont immigrés ou des enfants d'immigrés. Mmh. Ça ne nous empêche pas d'aimer Londres. New York est cosmopolite. C'est pas forcément le drame, mais c'est pas forcément sans difficulté, puisqu'il n'y a pas un homme universel ou une femme universelle qui migre. Chacun est particulier avec sa langue et ses habitudes. Il faut donc trouver un moyen de cohabiter.
Mais est-ce qu'on migre différemment là en ce moment? Parce que vous décrivez des sauts. Il y a d'abord eu des sauts. On quitte son village, on va vers une plus grande ville. Et puis de la plus grande ville, des fois, on va vers une plus grande ville encore qui est plutôt un pôle régional en restant à l'intérieur du continent africain. Est-ce qu'aujourd'hui, ces passages-là ne se font plus en fait et qu'on cherche directement l'autre côté, c'est-à-dire l'Europe?
Tout à fait. Je vois cette fontaine à des vasques plus larges toujours. Il y a l'exode rural. On va dans les villes, on arrive dans les capitales régionales et finalement en Afrique du Sud, par exemple, qui a longtemps absorbé les gens qui seraient autrement partis ailleurs. Mais maintenant, l'Afrique du Sud, économiquement, est ruinée par cette immigration qui n'est pas maîtrisée. Et je pense que nous sommes au point où cette immigration à l'intérieur du continent, qui était prédominante, va être dépassée par l'immigration qui dépasse déjà, même aux États-Unis, 40% des demandes d'asile émanent de personnes qui sont originaires de l'Afrique subsaharienne.
Et dans l'Afrique du Sud que vous décrivez, d'ailleurs, les lois désormais sont tout aussi restrictives qu'on peut en trouver chez nous au cœur de l'Europe.
Parfois beaucoup plus crues, dans l'expression.
Il y a une autre idée qui étonne parce qu'elle fait un peu les choux gras de certains politiciens. Parfois, on dit qu'on a besoin de l'apport de l'immigration pour rétablir notre ce qu'on appelle le ratio dépendance. Nous, on est trop vieux, il faut bien un apport de jeunes qui vont travailler et qui vont permettre aussi à nos systèmes de perdurer. Vous dites que la contrainte démographique, c'est une mystification. En réalité, ça n'existe pas.
Oui, on a un peu l'esprit aussi divisé que le travail. C'est-à-dire, c'est des parcelles qui résonnent bien, mais la cohérence d'ensemble manque. Quand vous regardez qu'au début du XXe siècle, l'espérance de vie en Europe et en Amérique était 47 ans. Nous avons donc gagné 30 ans en espérance de vie. Qui dit que ça doit être privatisé sous forme de retraite? En plus, on nous dit que du fait de la robotisation, il y a pénurie d'emplois rémunérés. Donc si vous mettez tous les éléments ensemble, si aujourd'hui on voudrait désarmer cette contrainte démographique...
Ça, c'est l'argument
de
l'Allemagne, par exemple. Pareil, c'est un faux argument?
Oui, parce qu'on dit que nous n'avons pas assez de bras et de cerveau. D'abord, on n'importe pas des bras et des cerveaux, on importe des êtres humains qui veulent être heureux. Il faut créer des conditions pour être heureux. Donc je trouve que c'est du taylorisme biologique. Et d'autre part, on peut très bien décider collectivement qu'il faut une part d'immigration. Et il faut peut-être aussi une part où nous acceptons de travailler plus longtemps puisque nous avons fait de tels progrès que rester 30 ans à la retraite au basque de ceux qui travaillent, les jeunes, c'est peut-être pas juste non plus.
Au basque de ceux qui travaillent. Est-ce que monter des grillages, Stephen Smith, de ce que vous dites, est-ce que monter des grillages, ça sert à quelque chose? Est-ce que mettre des sacs de sable entre une frontière et une autre, ça sert réellement à quelque chose? S'il y a quelque chose d'inéluctable dans cette ruée, comme vous dites, à quoi bon fermer ses frontières finalement?
J'aimerais beaucoup dire ça ne sert à rien, mais ce serait aussi irresponsable que de dire je peux diriger une entreprise et jamais licencier personne, ou je peux être professeur d'université et ne pas donner de mauvaises notes. Par moment, il faut protéger, faire respecter une frontière, mais il faut surtout pas avoir une frontière comme une barrière baissée. C'est un espace de négociation et surtout entre voisins, puisque je ne peux pas me désintéresser de ce qui se passe en Afrique. Mais je ne peux pas non plus dire démagogiquement il faut ouvrir les frontières, tout le monde peut venir et parfois je serai obligé de baisser la barrière.
Alors pour à la fin de votre livre, vous imaginez en fait ce qui pourrait être des scénarios de ce qui va se passer ensuite, Stephen Smith. Le premier, alors facile, le premier, on ouvre tout, on ouvre grand et on laisse tout le monde passer.
C'est Pentecôte, on s'embrasse tous et on se comprend.
C'est l'épiphanie.
Très bien. Et ça, l'épiphanie, ça peut arriver. Et peut-être, Londres ou New York, d'une certaine façon,
après avoir. L'été ne l'est plus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible encore?
Ça paraît assez difficile puisque l'écart est quand même très, très grand. Je pensais à l'homophobie en Afrique, pensais à l'idée de démocratie ou d'autorité parentale. Il y a beaucoup de choses où il faudrait avoir le temps de se rapprocher. On ne peut pas simplement ouvrir les frontières et penser que ceux qui viennent deviennent des concitoyens du jour au lendemain. Ça me paraît un rêve dangereux pour nous et aussi pour les migrants.
À l'inverse, tout fermé, c'est le scénario numéro 2. Là aussi, vous l'avez dit, ça paraît impossible.
Totalement impossible et non pas souhaitable, puisqu'on voudrait défendre un principe d'humanité qu'on nie en agissant.
Alors, le troisième, un scénario catastrophe qui parle de dérives mafieuses et de trafic. Là, honnêtement, on n'est pas très loin. Quand on voit passer les Libyens, les passeurs libyens, les bateaux, etc., on est quand même à deux doigts.
Oui, on y est. Et ça peut être politiquement exploité par une extrême droite qui, par là, ne réussissant pas sa marche à travers les institutions, pourrait agiter une menace un peu populaire, vous voyez, en s'alliant avec des milieux de trafiquants. Ça, c'est un risque réel. L'autre possibilité, c'est en démocratie, on peut toujours louvoyer, on peut essayer de faire un tout petit peu de tout, mais sans aller trop loin.
C'est votre scénario bric et broc, en fait, on y est un peu aussi.
On louvoie un peu entre deux, non? Oui, malheureusement, ça ne va pas tenir, parce que nous parlons quand même de dizaines de millions de personnes qui risquent de venir, non pas demain, mais lorsque l'Afrique décolle réellement, et c'est imminent. Donc je ne pense pas que ça soit une parade, ce n'est pas une réponse adéquate.
Vous parlez d'un un moment d'une possibilité de... Vous appelez ça le retour au protectorat, le mot est peut-être un peu fort, mais il s'agit de pactiser avec un certain nombre de régimes pour endiguer certains flux. Là aussi, on est en plein dedans. Est-ce que c'est parce qu'on fait avec la Turquie? C'est ce qu'on fait avec la Libye?
Tout à fait.
C'est ce qu'on
6 fait milliards avec le Maroc. Pour la Turquie, Kadhafi avait réclamé 5 milliards, il ne les a pas eus, mais aujourd'hui nous traitons avec des chefs de guerre en Libye.
Mais est-ce que c'est efficace, ça, selon vous? Est-ce que ça, c'est une idée qui se creuse?
D'une certaine façon, ça se fait, en tout cas, parce qu'on négocie des conventions de migration avec beaucoup de pays qui sont un limace autour de l'Europe.
Y compris en pactisant avec le diable, parfois.
Tout à fait.
Et sans crainte de pactiser avec le diable, donc.
L'Italie le fait beaucoup avec la Libye aujourd'hui, et c'est de la réelle politique. Je ne dis pas que je trouve ça formidable, ce n'est pas à la hauteur du défi, mais ça se fait.
Allez, c'est passionnant. En tout cas, ça s'appelle « La ruée vers l'Afrique », publié chez Grasset. Stephen Smith, avec nous dans Un jour dans le monde. Merci mille fois.
France Inter, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Et la suite, tiens, permettra de poursuivre la conversation que nous venons d'avoir. Nous allons au reportage au Sénégal, on surveille la langue de barbarie, les pieds dans l'eau. On parlera de réfugiés climatiques, à suivre aussi Florence Paracuelos aux États-Unis, en Algérie et en Belgique. 18h50, Sandy Dauphin qui verdit la planète et refroidit l'atmosphère. Vous vous demandez, Sandy, bonsoir.
Bonsoir.
À quoi sert d'envoyer une voiture dans l'espace?
Oui, c'est ce que Elon Musk va faire ce soir avec sa Falcon Heavy, sa super fusée. À quand l'envoi dans l'espace d'un camion benne à ordures pour récupérer tous ces déchets spatiaux?
Eh bien, écoutez, l'idée est lancée. 18h55, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous mettez le monde à l'envers. Bonne nouvelle, alors Wall Street a plongé.
Oui, les bourses se cassent la figure, c'est formidable, c'est le signe que l'économie va bien.
Allez, à tout de suite. Et le tour du monde continue avec un détour par Chicago. Wilco, If Ever Was I a Child.
I've never been alone. don't know if I ever was a child. I was tied up like a boat, unbuttoned like a coat, set free for a while. Well, I jumped to jolt my clumsy blood, while my white, green eyes cry like a window pane. Can my cold heart change, even out of spite?
If I Were a Child, Wilco sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, Florence Paracuelos, quand on se penche, on voit pas que du rose. On commence par les États-Unis, pays tous les possibles et de la recherche du bonheur.
Eh mais oui, les USA, grand pays d'immigration. 1 million de cartes vertes, des cartes de résidents permanents délivrées chaque année en moyenne avant Trump. C'est ce même pays qui est capable d'expulser un homme après 39 ans passés sur le territoire. Amer Othman Hadi vivait aux États-Unis depuis l'âge de 19 ans. C'était un patron de PME prospère de l'Ohio, marié, père de 4 filles. La semaine dernière, il a été expulsé vers la Jordanie d'où il était venu en 1979. Son histoire a fait la une ces derniers jours. Illustration du zèle des services de l'immigration. L'homme avait été marié une première fois. Il avait obtenu la carte verte, mais 20 ans plus tard, les autorités ont eu un doute sur la validité du mariage. Donc plus de carte de résident. Commence alors une longue bataille judiciaire, suivie d'un répit dans les années Obama. Avec Trump, c'est terminé. Arrestation et aller simple vers Amman. Ses défenseurs, sa femme et sa fille peuvent toujours manifester.
Not one more deportation. Not one more deportation.
I'm devastated because this is not the American.
Je suis dévastée. Ça n'est pas une façon de faire en Amérique. C'est de la cruauté, c'est inhumain. Vivre ici pendant 40 ans sans jamais enfreindre la loi et être traité comme il l'a été, c'est hallucinant, c'est insensé. C'est sa femme qui parle, entourée de ses 4 grandes filles. Leur dégoût, partagé par le maire de la ville et par le représentant démocrate de l'Ohio. Dans le même esprit, 300 000 dossiers de naturalisation suspectes vont être examinés. En janvier, un homme a été dénaturalisé 12 ans après être devenu américain. Son seul délit, avoir été quelques mois sans papier à son arrivée aux États-Unis.
Et vous nous en aviez parlé. On passe à l'Allemagne, Florence, et aux dernières indemnisations des victimes du nazisme.
Des réparations vont être accordées aux Juifs d'Algérie. L'annonce a été faite hier par la Claims Conference, organisme créé en 1951 pour aider les survivants du génocide à obtenir des dédommagements. Les derniers seront sans doute ces 25 000 juifs d'Algérie, français depuis 1870. Le régime de Vichy leur retira leur nationalité en 1940, les traitera comme des parias jusqu'au débarquement américain de 1942, privés d'école, virés des lycées et des universités, exclus des administrations et de toute une série de professions. L'administration coloniale qui était à l'initiative avait même créé un service d'aryanisation de l'économie. Et les Juifs d'Afrique du Nord étaient comptabilisés, on ne le sait pas toujours, dans les objectifs d'extermination d'Hitler. Des projets de déportation vers Auschwitz via Marseille furent même prévus par la Gestapo. Ceux qui restent aujourd'hui vivent en France pour la plupart. Ils toucheront 2500 euros chacun après enregistrement auprès de la Claims Conference qui va ouvrir des bureaux dans les grandes villes jusqu'en avril. Depuis 1952, l'Allemagne a versé 70 milliards de dollars à plus de 800 000 victimes du génocide.
Allez, du cinéma, enfin, pour terminer cette semaine, ça sort demain. Une juge belge qui n'a pas la langue dans sa poche.
Anne Gruvez, juge d'instruction à Bruxelles, suivie dans un film documentaire co-signé Jean Libon, créateur de la mythique émission Striptease, vous vous en souvenez.
Bien sûr.
Évidemment, son pari repose uniquement sur cette femme d'une cinquantaine d'années, absolument truculente, et qui voit défiler dans son bureau toute la misère, la lâcheté et parfois l'horreur du monde. C'est fascinant, selon Télérama. La réalité dépasse la fiction, nous dit Le Temps. Nos amis belges, Charline et Alex, en ont parlé il y a quelques jours dans Par Jupiter. Le titre de ce film, Ni juge, ni soumise.
Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous ? J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 euros par jour. C'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite.
Sa maman, ma grand-mère et le grand-père de mon père, c'est des sœurs et frères.
Oui, mais attendez, vous imaginez un peu ? La consanguinité, c'est connu depuis toujours. Ça fait des siècles qu'on sait ça.
On en apprend tous les jours.
Si demain, vous réattaquez une bobonne, c'est ma tête qu'on verra dans la presse en disant « Cette connasse a libéré un type dangereux ».
Ni juge, ni soumise, ça a l'air absolument excellent.
Mais vrai juge, un vrai jugement et tout.
Oui, tout à fait.
Ça n'arrivait pas dans son bureau, mais c'est très sérieux tout
avec
ça.
Avec des petits délits et des histoires très graves aussi. C'est signé Jean Libon et Yves Inan. Et le film a été amphore d'or tout de même du dernier festival du film grolandais de Toulouse.
En tout cas, ça sort demain, mercredi. Florence Paracolos, vous reviendrez demain.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20,
le Mexique est juste derrière,
un jour dans le monde,
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est donc au Sénégal que nous partons, que nous emmène le reportage Un jour dans le monde ce soir et qui nous permettra de poursuivre en écoutant des gens la conversation qu'on a eue avec Stephen Smith il y a un instant. Bienvenue à Saint-Louis du Sénégal, d'où vous venez. Et Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Claude, c'est là qu'était Emmanuel Macron ce week-end, mais là précisément où vous nous emmenez, ce qu'on voit à l'œil nu, ce sont les dérèglements climatiques qui peut-être vont engendrer des déplacements climatiques. Et pour comprendre, il faut remonter un tout petit peu en arrière dans le temps.
Je suis le maire de Saint-Louis et souhaiterais poser ma question surtout au président Macron. En 1926, à Saint-Louis, donc alors colonie française, le gouverneur de l'époque instruisit l'érection d'un mur de protection pour protéger Saint-Louis contre l'érosion côtière. Aujourd'hui, cette digue est en train de s'effondrer, livrant Saint-Louis à la merci de la furie des vagues.
La scène se passe en décembre dernier, au One Planet Summit à Paris. Le grand sommet climat organisé par Emmanuel Macron, l'homme qui parle, s'appelle Mansour Faye, c'est le maire de Saint-Louis du Sénégal. Et cet homme, il sonne l'alerte. Sa ville et ses habitants, dit-il, sont menacés car la mer ronge inexorablement la langue de barbarie. La langue de barbarie, c'est le nom de cette bande de sable classée parc naturel, exactement là où le fleuve Sénégal se jette dans l'Atlantique et derrière laquelle s'est en fait construite la ville de Saint-Louis, ancienne capitale de l'Afrique occidentale française. On est à quelques 200 km au nord de Dakar, tout contre la frontière mauritanienne. Et là où nous partons, Fabienne, c'est le quartier de Guettendor. Alors il faut imaginer de longues rues bordées de petites maisons aux peintures mangées par le sable et le vent salé. Il y a longtemps, un mur de protection avait été construit pour protéger la langue de barbarie des eaux de l'océan. Mais en quelques dizaines d'années, le niveau de la mer a monté sous l'effet du dérèglement climatique. Le creusement d'une brèche en 2003 par les autorités sénégalaises a accéléré le phénomène. L'eau salée a pénétré les terres. Le sel s'est infiltré partout. Tout l'écosystème de la région a été bouleversé. La faune, la flore, un village entier a même disparu. Et le quartier de Guettendor est désormais en première ligne. Alors ce quartier, c'est une des zones les plus densément peuplées de la planète. 55 000 personnes s'y entassent, parfois 8, 9 enfants par famille. Ici, on est pêcheur, de père en fils. C'est le cas de cet homme, tout grand, tout fin, qui nous attend au bout de la rue.
Je suis Latif Fall, je suis maire adjoint. C'est un quartier essentiellement composé de pêcheurs. Bon, sans la pêche, rien ne va. Mais avec le réchauffement climatique maintenant, les bandes de poissons vont migrer vers les zones les plus chaudes. C'est la raison pour laquelle, vraiment, le quartier éprouve d'énormes difficultés.
Vous êtes né ici ?
Oui, né ici, grandi ici, étudié ici.
Quand vous étiez petit, la mer, elle était beaucoup plus loin?
Ouh, c'était 2 à 3 km. Ça fait 50 ans de cela.
Et aujourd'hui?
Non, aujourd'hui, il n'y a plus d'espace. Les vagues tapent le mur. Non seulement les vagues tapent le mur, mais les vagues vont jusqu'aux concessions. C'est la raison pour laquelle pas mal de centaines de familles ont été déplacées. Au minimum, 500 à 600 familles.
Alors, il faut juste contourner les maisons hein, pour comprendre. De plage, il n'y en a plus. Quelques mètres à peine, les jetés ont été attaqués par les vagues. Il reste quelques plots rouillés, tordus. Les vagues lèchent les bâtiments, les engloutissent parfois, alors la mosquée ou des maisons. Ou devant nous, cette école dont les blocs détruits sont tombés dans les vagues. Sur le trottoir, un homme en tenue traditionnelle, jaune vif. Il s'appelle Abdoulaye Sen. Il est professeur de sociologie environnementale.
D'année en année, les choses s'aggravent. On distinguait bien des saisons où la mer avait un comportement. Mais maintenant, ce qu'on observe, c'est que tous les événements qui se passaient pendant la période froide se passent également pendant la période chaude. Aujourd'hui, en saison chaude, la mer est devenue plus agressive. Par exemple, tout cet été-là, de juillet jusqu'en octobre pratiquement, il y a eu des assauts constants de la mer.
Du coup, 4 mois sans pouvoir pêcher, eh bien c'est 4 mois sans revenus. Presque 50% de la population du Sénégal vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais plus encore, ici à Gaétendor, et les pêcheurs de la côte savent que l'avenir sera pire.
Lorsque j'avais 18 ans comme ça, il y a toutes sortes de poissons ici. Ici, on pêche le tchof.
Le tchof.
Ouais, le menmenyar, yarsine, ben, kirikiri, yaboy, beaucoup, beaucoup de poissons, quoi. Maintenant, avec le changement climatique, il n'y a plus de poissons. Pour gagner de poissons, il faut aller au minimum 25 km ou 26 km en mer. Alors que bon, les frontières ici, il n'y a pas beaucoup d'espace de mer. Le reste, ça appartient aux Mauritanie. Quand les pêcheurs rentrent en Mauritanie, bon, on tire sur eux, on les tue, on tue les pêcheurs.
La quête du poisson est donc devenue une source de conflit avec la Mauritanie voisine. La sauvegarde de la langue de Barbarie est un des projets prioritaires de la Banque mondiale qui a annoncé une aide de 24 millions d'euros pour reloger ses habitants qui sont donc obligés de se replier, de fuir vers les terres. Ce week-end, Emmanuel Macron a promis 15 autres millions d'euros pour un chantier d'urgence, des brise-lames, des digues. Mais sur la côte ouest de l'Afrique, ce phénomène d'érosion menace 17 pays, 120 millions de personnes qui seront peut-être, Fabienne, les réfugiés de demain.
Claude Guibal avec Laurent Maketti pour la prise de son. Merci à vous deux. À bientôt dans Un jour dans le monde. Voici Sun Little sur France Inter. Oh me, oh my. Guillaume et nous dit Son Little. Voici Sandy Dauphin.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Esse.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Sandy Dauphin qui, tous les mercredis, mardis, regarde la planète. Remarquez, le mercredi, ça marche aussi sous les assauts de la pollution et du réchauffement. Et ce soir, Sandy, vous êtes sinon en colère, en tout cas, on va dire dubitative. Voilà, si c'est le mot qui convient. Et nous aussi, d'ailleurs, d'ici un peu plus d'une heure maintenant, il sera autour de 20h20, Elon Musk, le milliardaire un peu fantasque, mais très imaginatif, qui a plein de projets spatiaux, va, entre autres choses, mettre une voiture en orbite, une bonne vieille voiture rouge, rutilante, toute neuve, en même temps qu'il fait décoller sa grande fusée XXL. Donc, c'est pas très écolo, Sandy, de balancer des déchets comme ça dans l'espace.
Oui, ce déchet, en l'occurrence, c'est le tout dernier roadster de la marque Tesla, couleur rouge, cerise de minuit, au volant, un mannequin en latex baptisé Starman, et en fond musical, la chanson Space Oddity de David Bowie, bien sûr. Elon Musk s'est expliqué dans un tweet sur ce coup de pub intergalactique. « J'aime l'idée, dit-il, qu'une voiture flotte sans fin à travers l'espace et qu'elle soit peut-être découverte dans des millions d'années par des extraterrestres. » Alors, oui, théoriquement, cette voiture est un futur déchet de l'espace, mais si ça n'avait pas été une voiture, eh bien ça aurait été autre chose, parce que la fusée aurait de toute manière dû envoyer un objet de taille et de masse similaire. On appelle cela la charge utile.
Et là-haut, c'est une poubelle.
Oui, depuis le lancement du satellite Sputnik en 1957, la ferraille s'accumule dans l'espace entre les morceaux de fusée, les satellites hors d'usage, les fragments en tout genre, quand ce n'est pas une spationaute de la NASA en 2008 qui perd sa boîte à outils alors qu'elle effectuait des réparations sur la station spatiale internationale. On estime
mal attachée, la boîte.
Je pense, oui. Ça lui a échappé. On estime à 29 000 le nombre de débris de plus de 10 cm. C'est un danger pour les missions spatiales en raison du risque de collision.
C'est exactement le scénario du film.
Ces débris peuvent atteindre une vitesse de 28 000 km/h. Imaginez l'impact. C'est pas le moustique sur votre pare-brise quand vous roulez sur l'autoroute. Et selon le CNES, le Centre National d'études spatiales, en 2015 par exemple, eh bien la station spatiale internationale a dû slalomer, manœuvrer par 5 fois pour éviter justement des débris spatiaux.
Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Que fait Wall-E, le fameux robot de Walt Disney qui est censé servir à ça?
Alors, la majorité des débris retombent sur Terre, brûlent dans l'atmosphère. Ce qui n'a pas brûlé termine dans les océans, loin des habitations. Leur trajectoire est calculée exprès. Pour les satellites situés plus haut en orbite géostationnaire, c'est-à-dire à 36 000 km d'altitude, eh bien quand ils meurent, on les propulse encore plus haut, 300 km plus haut pour être exact, sur une voie de garage spatial. Donc en gros, on sort les poubelles, mais il n'y a pas de collecte.
Alors les agences spatiales travaillent justement à, c'est ce que vous dites tout à l'heure, des camions-bennes de l'espace.
Oui, certaines s'inspirent de la pêche. Elles envisagent d'utiliser des harpons, des filets. L'agence spatiale européenne, l'ESA, travaille par exemple sur un satellite équipé d'un bras robotique, nom de la mission IDI Orbit, pour faire le ménage. Benjamin Bastida Virgili, ingénieur spécialiste des déchets spatiaux à l'ESA.
On lancerait avec une fusée européenne un satellite qui aurait ou bien un bras robotique ou bien un filet qui s'approcherait à l'autre satellite, à celle qu'on veut récupérer, et après l'avoir rattrapé, il faut le pousser pour le faire redescendre jusqu'à une orbite où il retombe sur Terre. Et pour ça, il faut être sûr qu'on ne va pas avoir une collision avec l'objet qu'on veut rattraper, parce que ça serait encore pire. On générerait beaucoup plus de débris. Donc, il faut travailler en toute cette technologie pour pouvoir attraper des débris et les faire retomber.
Le problème, c'est que ce genre de mission manque de moyens. Ça coûte beaucoup moins cher de laisser un vieux satellite dans l'espace que d'aller le chercher. Et cela ne va pas aller en s'améliorant, car l'industrie spatiale va générer de plus en plus de déchets. L'explosion de l'utilisation d'Internet et des télécommunications, tout ça c'est de votre faute, conduisent à une multiplication de petits satellites. On parle désormais de méga-constellations de satellites en orbite basse, entre 400 et 800 km d'altitude.
Ouais, sauf que Musk, lui, fait quand même du recyclage par souci d'économie.
Oui, c'est sa marque de fabrique.
Voilà, il n'est pas si mauvais.
Voilà, donc on en revient à ce lancement ce soir. Comme pour sa fusée Falcon 9, après le lancement de ce soir, Elon Musk veut faire redescendre les 3 étages principaux de la Falcon Heavy, sa petite sœur, pour construire une autre fusée à moindre coût.
En même temps, Sandy, je vais vous dire, quand on met du Bowie dans la Space Radio, on ne peut pas être tout à fait mauvais quand même. Allô, Major Tom ? Fabienne ? Allez, on n'est pas d'ici, Jean-Marc Forêt là.
18h20. Fabienne Synthès sur France Inter.
Jean-Marc Fourré, le monde à l'envers. Jean-Marc, mouvement de panique sur les bourses mondiales. Moins 4,6% à New York hier, Paris à Tokyo, peu ou prou. On a remis un petit peu les choses en place sur les places européennes ce matin, même si on a baissé quand même. On a entendu prononcer le mot de mini-crack. Et vous qui mettez le monde à l'envers, vous dites, eh ben, bonne nouvelle.
Et comment donc? Aux États-Unis, il y a un adage, good news for Main Street, bad news for Wall Street. Ça veut dire quand il y a une bonne nouvelle pour monsieur tout le monde, pour l'économie en général, c'est une mauvaise nouvelle pour la bourse. Et c'est à peu près ce qui se produit sur les places boursières depuis quelques jours. La cause numéro un de cette panique, c'est une super nouvelle pour les Américains moyens. Leur salaire augmente. Non seulement le chômage est au plus bas aux États-Unis depuis 18 ans, non seulement les créations d'emplois sont au plus haut, mais surtout, le chiffre officiel est tombé il y a 3 jours, les salaires viennent de connaître leur plus forte augmentation depuis 2009. 3% de hausse en moyenne, ça vaut pour quasiment tous les secteurs. La restauration, l'automobile, le bâtiment, le textile, etc. Encore plus fort, un exemple, la chaîne de supermarchés Walmart, on en avait parlé ici, vient de porter le salaire de ses employés de 10 à 11 dollars de l'heure. Vous imaginez, ça veut dire 10% de hausse de votre salaire d'un coup. C'est donc bon pour les Américains moyens, bon pour réduire les inégalités, bon pour restaurer un peu de cohésion sociale. Mais pour Wall Street, c'est l'horreur. Les investisseurs, comme on les appelle poliment, redoutent que cette hausse des salaires n'entraîne en chaîne une hausse de l'inflation, une hausse des taux d'intérêt, avec pour conséquence, vous me suivez, hein, j'essaie d'aller
lentement,
ouais,
je comprends,
de l'argent plus cher et donc par effet domino des profits plus petits. La cata, donc, ça vend à tour de bras et les bourses se cassent la figure. À bas les augmentations de salaires.
Mais alors quand même, Jean-Marc, c'est un coup d'arrêt assez brutal après des mois de hausse.
Absolument, mais ça aussi c'est une bonne nouvelle, figurez-vous. Wall Street vient de connaître 14 mois de hausse non-stop. On n'avait jamais vu ça depuis, tenez-vous bien, 1959, plus 25% en un an. Et il est sans doute temps que ça s'arrête parce que sinon, de l'avis de plusieurs experts, on va basculer dans la bulle spéculative. Ce coup d'arrêt, c'est donc non seulement une correction, Delphine Simon le disait tout à l'heure dans le journal, mais c'est peut-être encore mieux un retour vers un fonctionnement plus normal de l'économie. Je m'explique. Depuis plusieurs années, si vous voulez, l'économie vit sous perfusion des banques centrales qui injectent de l'argent dans le système avec des taux d'intérêt très bas. Ce n'est pas sain économiquement. Si les banques centrales se désengagent, il y aura sans doute moins de profits, mais on ne vivra plus sur une illusion d'argent gratuit. Et puis, je vous sens inquiète, Fabienne, rassurez-vous, tout va très bien pour les très gros. L'an dernier, les profits des grandes entreprises américaines ont été de 80% supérieurs aux prévisions. Elles ont de la marge avant d'être sur la paille.
Alors, je suis rassuré pour ma propre marge, mais vous n'allez pas nous faire croire quand même qu'il n'y a pas de risque quand les bourses plongent comme ça.
Il y en a, c'est vrai, y compris pour monsieur tout le monde. Le premier, c'est le risque inflationniste. On l'aurait presque oublié celui-là ces dernières années, mais il est bien présent. Les prix peuvent se mettre à augmenter significativement. Deuxième risque, c'est le niveau des retraites. Pas tellement en France où on est sur la retraite par répartition, mais dans les pays anglo-saxons où la retraite par capitalisation, autrement dit, le montant de votre retraite peut être lié à des placements financiers plus ou moins sûrs. Et s'il chute, bah, badaboum pour votre pension à la fin du mois. Le troisième risque, c'est ce que les places boursières appellent volatilité. Oh, le joli mot, volatilité. C'est léger, aérien, poétique. En termes plus crus, ça veut dire que la bourse, c'est instable, que c'est le lieu par excellence des mouvements irrationnels. Dans cet univers, la spéculation l'emporte sur l'investissement. Du coup, parfois, tout le monde se met à vendre en même temps, ça s'appelle un crack, et la planète paie les pots cassés. On n'en est pas là. Pour l'instant, réjouissons-nous pour l'homme de la rue aux États-Unis et au passage, savourons un autre petit plaisir. Aujourd'hui, Donald Trump n'a pas pu se livrer à son rituel quotidien. Un petit tweet pour saluer les performances de Wall Street. Oui, je sais, c'est mesquin comme petit plaisir, mais bon...
Allez, vous avez le droit, Jean-Marc Four, le monde à l'envers, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, à demain. Le 18-20 de France Inter continue avec le journal de Sébastien Paour et puis ce sera le téléphone sonne avec l'ami Stéphane Leneuf ce soir.